Nous relisons ensemble ce matin le texte que nous devions lire, étudier cette semaine à l'étude biblique de Chevry, dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, les versets 17 à 37. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Je vous dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Vous avez entendu dire aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca, de fou, sera passible du Sanhédrin. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier quadrant. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite, la rend adultère à et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir, que votre parole soit « oui, oui, non, non ». Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. On le sait, mais il faut toujours se le répéter inlassablement, si la loi était faite pour nous mettre en règle avec Dieu, si elle était la clé qui nous ouvre les portes de ce royaume des cieux, ou de Dieu, des cieux plutôt, chez Matthieu, les exemples qu'on nous cite ici nous montrent bien que la moindre de nos pensées, le moindre de nos gestes nous embarrerait l'accès. C'est évident. Évidemment, en pratiquant la loi jusqu'au scrupule, nous pouvons peut-être espérer nous arranger dès ce monde-ci une petite vie confortable, sans ennemis, sans aventure, sans tapage, une vie, pour ainsi dire, monastique. C'est plus facile en ce moment, puisque nous ne pouvons guère sortir de chez nous, mais ça redeviendra compliqué d'ici quelque temps. Les mauvaises pensées, on peut même apprendre à ne pas les laisser troubler la tranquillité de notre conscience. On sait faire ça. On peut apprendre à ravaler ses colères, ses hontes, ses répulsions, ses désirs, au point de ne plus les laisser apparaître aux autres. Nous savons faire ça. Qui sait où pourraient nous mener d'ailleurs toutes ces colères, si elles s'exprimaient, nos hontes, nos répulsions ou notre désir. On nous le dit un peu de la place publique chez le juge et chez le juge, en passant par le garde, directement derrière les barreaux. Mais éviter de franchir les portes de la prison, est-ce le bon moyen de se faire ouvrir les portes du royaume des cieux? Est-ce suffisant? C'est toute la question. Pourquoi nous aveugler alors sur nos colères, nos hontes, nos répulsions ou nos désirs dont on nous donne un simple exemple ici? Si le Dieu qui voit tout nous juge finalement pour ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, comment pouvons-nous croire que Dieu nous fait payer inlassablement et si chèrement le droit d'avoir une petite vie tranquille qui serait la salle d'attente du royaume avec quelques magazines sur la table basse? Si c'est le cas, notre haine la plus intime pourrait bien être, au bout du compte, la haine de ce Dieu sans pitié qui nous en demande toujours plus. Ça pourrait être ça, le résultat, qui exige de nous la mutilation de nos organes les plus vitaux. Et encore, on ne nous a pas tout dit dans ce texte. Que s'amputer encore, hein, sous prétexte qu'ils sont pour nous une occasion de chute, s'acharner et finir en morceaux? Faut-il alors abroger la loi? Non, ça n'est pas non plus ce que dit Jésus, au contraire. Alors, ce qui l'intéresse en premier lieu, ce n'est pas la loi, c'est la justice. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il n'est pas question de loi, comme si elle était une fin en soi. Accomplir la loi, dépasser la justice des scribes et des pharisiens, c'est la même chose. La question est seulement de comprendre quelle est la place de cette loi comme moyen, comme outil, dans l'accomplissement de la justice de Dieu. Vis-à-vis de la justice de Dieu, justement, les scribes et les pharisiens en font déjà assez. On ne peut pas leur reprocher d'être fainéants là-dessus. Presque trop, ils en font. C'est ce presque trop d'ailleurs qui pousse Jésus jusqu'à l'absurde d'un raisonnement qui va jusqu'au bout et qui souvent, comme les raisonnements jusqu'au boutistes, ne tient pas vraiment. Les exagérations du sermon sur la montagne ont bien un objectif pourtant, dénoncer l'hypocrisie souvent inconsciente des scribes et des pharisiens que nous sommes souvent, en montrant à quoi leurs scrupules ou nos scrupules nous mènent. Par contre-coup, elle nous montre aussi, elle nous révèle ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, des êtres de désir. On a même parlé d'ailleurs de machines désirantes, et pour qui le désir est une force vitale dont nous avons besoin, mais dont nous n'avons pas la maîtrise. Si nous éteignons ce désir en l'étouffant, nous mourrons tristement à petit feu, sans ambition, sans projet, sans surprise et surtout sans plaisir. Est-ce une vie de vivre ainsi? Ce sont là les dangers de la voie pharisienne qui peut aller jusque-là. On peut toujours se consoler en disant que ça nous met en règle avec Dieu, mais une fois qu'on est quasi mort, étouffé, ça nous fait une belle jambe. Dieu nous a donné la loi pour que la vie qu'il nous a donnée ne s'épuise pas à tourner en rond sur elle-même. Ce n'est pas la même chose. On peut aussi céder à ce désir. Mais on meurt aussi, parfois, plus légèrement peut-être, en brûlant la chandelle par les deux bouts, en misant tout sur nos projets justement, en faisant tout dépendre de nous puisque c'est nous qui sommes aux affaires. Autant de projets, autant d'engagements possibles, mais aussi autant de divinités qui exige que nous misions tout sur elle et qu'il ne nous le rende pas si bien que ça d'ailleurs. En nous laissant asservir par toutes ces séductions qui passent à notre portée, celles du plaisir, de l'engagement, des choses à faire, de penser que le monde dépend de nous, du devoir, en leur sacrifiant tout, C'est un autre genre d'étouffement qui nous est promis. Dieu ne donne pas la loi pour que nous soyons en règle avec lui, mais pour que nous soyons en règle avec nous-mêmes et avec les autres tout d'abord. Il nous la donne pour que nous ne nous laissions pas asservir bêtement par nos propres idoles, comme un charlatan qui se mettrait à croire à ses propres tours de passe-passe. Il nous la donne pour que notre prochain puisse jouir de son bien et que notre prochain nous laisse profiter du nôtre. Ça n'est pas tout, mais c'est déjà beaucoup. Abroger la loi qui vient me rappeler mes limites, ce serait aussi la mort par overdose de vie, par trop-plein. La loi représente deux choses importantes. D'une part, elle n'est pas faite pour nous mettre en règle avec Dieu, il n'en a pas besoin, ni tenter d'atteindre une perfection illusoire. Ça, c'est plutôt à nous de nous en apercevoir. Mais aussi, elle a été donnée aux Hébreux après leur libération de l'esclavage pour leur permettre de préserver autant que possible les acquis de cette liberté toute nouvelle. Ce n'est pas elle qui donne la libération. Elle n'en a jamais eu le pouvoir et ne l'aura jamais. Elle se contente de protéger les autres des excès de mon propre désir et me protège en retour des excès du désir des autres. C'est déjà beaucoup. Mais c'est tout. Ce n'est pas dans les paroles qu'il prononce à l'occasion du sermon sur la montagne que Jésus dépasse la justice des scribes et des pharisiens. C'est sur la croix qu'il la dépassera, cette justice. À cet endroit-là et à ce moment-là, Jésus accomplit justement la loi et sa résurrection dépasse la justice des scribes et des pharisiens et il n'en est pas disparu un seul trait de lettre, un seul iota. Il ouvre pour toute l'humanité des chemins de libération future, à venir, à aller chercher parce qu'elles sont offertes, promises. Une libération que Dieu offre aux hommes gratuitement. C'est sur la croix qu'a lieu ce dépassement. Dieu ne se contente plus de nous protéger les uns des autres, se protéger lui-même de notre idolâtrie, ça, c'est déjà fait. Il franchit les frontières étanches de ce chacun chez soi, aussi nécessaire qu'insuffisant, que dessine la loi en se donnant pour les autres et pour nous. C'est à ce moment-là qu'a lieu le dépassement. C'est seulement si nous suivons Jésus sur cette voie de la croix et de la résurrection, car nous aurons les nôtres, que la justice de Dieu devient notre propre justice et dépasse celle des scribes et des pharisiens, qu'encore une fois nous sommes fréquemment. Non pas parce que nous serions plus forts qu'eux, dans l'art de nous mettre en règle avec Dieu, ça nous avons d'énormes compétences dans ce domaine, mais parce qu'en Christ, Dieu nous a libérés des cercles vicieux où notre vie, notre désir, quelle qu'en soit la forme, s'épuisait à la poursuite d'eux-mêmes. C'est de cela qu'il nous sort, comme si enfin une force centrifuge nous permettait de sortir de ce cercle infernal, de prendre la tangente. De cela, la loi, si vous la relisez en entier, et le décalogue et toutes les collections de lois qui suivent, la loi n'en dit rien du tout. Elle se contente de dire « ne touche pas au bien de ton prochain, ne porte pas la main dessus, mais aussi ne porte pas de jugement sur la manière dont il en profite, ça le regarde, tant que ça ne porte pas atteinte à ta propre liberté ou à ton propre bien. » C'est la petitesse de la voie pharisienne si on en reste là, mais c'est aussi sa grandeur si on ose aller au-delà, comme on nous l'a montré. Pour ce qui est de donner, ça relève de la liberté que Dieu nous rend une fois que nous prenons conscience que nous sommes libres, plus libres que nous l'imaginons la plupart du temps. De l'intérieur de l'espace de liberté à l'égard de notre propre bien, la loi nous offre de témoigner de ce que Dieu est pour nous, c'est-à-dire pour les autres. Et ça, aucun règlement, aucune loi ne nous a demandé de le faire. C'est juste que maintenant, nous sommes capables de le faire. Offrir, en prenant le risque de se heurter à l'indifférence ou d'essuyer des refus. C'est cette liberté-là que nous avons. Comme notre humanité a refusé d'ailleurs le cadeau qui lui était fait. Comme ces ténèbres qui refusent cette lumière qui jette un coup de projecteur, une lumière crue sur ce que nous sommes. Nous croyons, nous, pourtant, que le Dieu parole a le dernier mot dès lors qu'il parle en premier. Parce qu'en effet, au moment où il donne le décalogue à Moïse, Dieu a le premier mot. Avant tout commandement, le texte commence par « C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude ». Et déjà là, indépendamment de la suite, tout est fait. Tout est déjà fait. On pourrait presque dire « tout est accompli » à ce moment-là. Tu es libre et maintenant, tu sais ce qui te reste à faire. Alors si un Dieu peut avoir le premier mot, pourquoi n'aurait-il pas aussi le dernier ? Amen.